19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce microphone. Bienvenue à ce bulletin d'information. Dans moins de 5 minutes, vous aurez le magazine de l'économie dont voici les titres. Le ballon d'or africain pourrait se transformer en mine d'or.
Ces stars-là sont aujourd'hui peut-être les meilleurs ambassadeurs que l'Afrique puisse avoir au niveau du monde entier. C'est par elles pratiquement qu'on arrive à mettre un nom sur nos pays ou bien pointer le nom de nos pays sur une carte du monde.
Et on suivra l'analyse de l'économiste ivoirien Marcelin Alekofio, responsable du Fonds monétaire international, rué vers l'or dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et selon le Fonds monétaire international, la croissance de l'économie américaine ne sera pas aussi rapide cette année que prévu. Jean-Roger Semi-Micro, le bulletin d'information. Le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé aujourd'hui que les islamistes somaliens ne sont pas les auteurs des attaques qui viennent de frapper la ville de Mpeketoni et qui ont fait plus de 60 morts en 2 jours. À l'occasion d'une adresse à la nation ce mardi, Uhuru Kenyatta a accusé des réseaux politiques locaux d'être à l'origine des attaques. Le groupe islamiste Al-Shabaab a pourtant revendiqué la responsabilité des attentats qui ont fait quelques 50 morts à Mpeketoni dimanche et au moins 15 autres victimes dans un village voisin. Lundi, les États-Unis ont qualifié les attaques d'odieuses et les ont condamnées dans des termes les plus vigoureux. Au Nigeria, l'armée a annoncé avoir arrêté plus de 450 personnes qui voyageaient entre le nord et le sud du pays. Elles seraient, selon la presse locale, soupçonnées de liens avec le groupe islamiste Boko Haram Bagasikura.
Oui, selon le général Olajide Laleye, porte-parole de l'armée, 462 personnes, dont 8 femmes, ont été arrêtées dans l'état d'Abia, dans le sud, hier matin. Selon lui, ils étaient à bord de 36 autocars et voyageaient entre les états de Bauchi et Jigawa, dans le nord, vers la ville de Port Harcourt, au sud. D'après l'AFP qui révèle cette information, le général Laleye n'a pas voulu se prononcer sur le motif des arrestations avant la fin des enquêtes. Mais la presse nigériane cite plusieurs hommes politiques du sud du pays pour qui ces nouvelles arrestations massives sont en relation avec Boko Haram, dont l'insurrection sanglante a fait plusieurs milliers de morts ces 5 dernières années.
En République centrafricaine, un nouveau commandement à la tête de l'opération Sangaris, le général Francisco Soriano, a passé la main aujourd'hui au général de brigade Bello Desminière. Le Soudan du Sud, le Soudan a accusé d'avoir bombardé un hôpital dans le Kordofan méridional. Médecins sans frontières affirme que 2 bombes ont frappé le centre hospitalier hier lors d'un raid aérien sur le village de Farandala. MSF compte 5 blessés dans le village ainsi qu'un membre de son personnel à l'hôpital. La salle d'urgence, la pharmacie et la cuisine de l'hôpital ont été détruites. Les autorités soudanaises n'ont pas répondu à ces accusations.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À Genève aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies a condamné les actions récentes en Irak des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. On écoute Lionel Gaïma.
Ban Ki-moon a d'abord demandé au premier ministre Nouri al-Maliki de repenser sa gouvernance pour calmer les tensions communautaires. Il a exprimé son inquiétude face à la dégradation rapide de la situation. Il a condamné les attaques, meurtres de civils et le kidnapping de diplomates par les islamistes. Washington a annoncé le déploiement de 275 soldats américains pour protéger l'ambassade à Bagdad. Sur le terrain, les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant ont pris contrôle des pans entiers du territoire. Aujourd'hui, ils ont lancé une attaque à Bakouba, à 60 km au nord-est de Bagdad, mais les autorités disent avoir repoussé l'assaut. Dans le même temps, les djihadistes de la branche syrienne d'Al-Qaïda ont pris le contrôle d'Al-Qaïm, un poste frontière entre l'Irak et la Syrie.
Merci Lionel. L'Iran et le groupe 5 plus 1 ont repris leurs négociations à Vienne en Autriche. Ils essayent de trouver un accord permanent avant la date butoir du 20 juillet. Des entretiens le mois dernier n'ont pas abouti, les parties ne pouvant s'entendre sur les détails d'un projet d'accord. La semaine dernière, Téhéran et Washington ont tenu des pourparlers, mais là encore, aucun résultat concret. Les négociations s'intensifient maintenant en vue de trouver un accord, a déclaré aujourd'hui le porte-parole de Catherine Ashton, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. Yémen. Par ailleurs, la Grande-Bretagne veut rouvrir son ambassade à Téhéran 2 ans et demi après l'attaque de la mission diplomatique par des manifestants en colère. Quelques aspects pratiques méritent d'être finalisés, a dit le secrétaire au Foreign Office, William Egg, mais selon lui, le moment est propice pour la réouverture de l'ambassade. Nouvelle frappe aérienne de l'armée pakistanaise dans le nord-ouest du pays, le long de la frontière afghane. Au moins 15 militants présumés ont été tués ce mardi, indique-t-on de sources officielles. Le bilan de l'offensive lancée depuis dimanche dans le Waziristan Nord s'élève maintenant à 187 morts. Cette offensive intervient une semaine après les attaques des talibans pakistanais à l'aéroport de Karachi qui avait fait près de 40 morts. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Dans un instant, le magazine de l'économie.
Washington, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Le ballon d'or africain pourrait se transformer en mine d'or.
Ces stars-là sont aujourd'hui peut-être les meilleurs ambassadeurs que l'Afrique puisse avoir au niveau du monde entier. C'est par elles pratiquement qu'on arrive à mettre un nom sur notre pays ou bien pointer le nom de notre pays sur une carte du monde.
On suivra l'analyse de l'économiste ivoirien Marcelin Al-Kofi, haut responsable au Fonds monétaire international. Ruée vers l'or dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Dans le nord de la Côte d'Ivoire et singulièrement à Nafana, village situé à 5 km du Mali, environ 5000 orpailleurs venus de la sous-région creusent nuit et jour le sol à l'aide de pioches et de dabas. Leur objectif, trouver de l'or pour améliorer leurs conditions de vie.
Tous les détails avec notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri. Et le Fonds monétaire international affirme que la croissance de l'économie américaine ne sera pas aussi rapide cette année que prévu. Économie américaine, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% en mai. Le rythme le plus élevé en un an, selon les chiffres publiés mardi par le ministère américain du Travail. La hausse de l'indice CPI est la plus importante depuis février 2013, notamment grâce aux prix alimentaires qui ont grimpé de 0,5%. Leur plus forte augmentation depuis août 2011. Ces derniers chiffres confirment la remontée des pressions inflationnistes, alors même que le Fonds monétaire international affirme que la croissance de l'économie américaine ne sera pas aussi rapide cette année que prévu. Son taux sera légèrement supérieur à celui de 2013, mais bien en dessous des prévisions antérieures. Le point avec Lionel Gaïma.
Dans sa revue annuelle consacrée aux États-Unis, le FMI prévoit une croissance du PIB de 2% en 2014 contre 2,8% anticipé en avril en raison du ralentissement au premier trimestre de l'année, lorsque le pays était paralysé par un hiver inhabituellement rigoureux. À noter que les économistes, aussi bien au FMI que dans le secteur privé, s'accordent pour dire que l'économie a renoué avec la croissance et devrait se renforcer dans les prochains mois.
We believe that this slowdown is temporary.
Nous croyons que ce ralentissement est temporaire et que des meilleurs jours s'annoncent, a dit Christine Lagarde, directrice générale du FMI. Lundi, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, a annoncé que la production manufacturière a augmenté nettement en mai après une légère baisse en avril. Par ailleurs, la production industrielle dans son ensemble a également augmenté de 0,6% après un recul de 0,3% en avril. Le FMI est d'avis que le gouvernement américain devrait poursuivre ses efforts pour stimuler l'économie en mettant ses taux d'intérêt directeurs bas. Nous estimons qu'une normalisation progressive des taux d'intérêt est la bonne approche, a dit Mme Lagarde. Le FMI a également exhorté les États-Unis à augmenter le salaire minimum et à renforcer les investissements publics dans les infrastructures et l'éducation. Le comité directeur de la Fed, qui s'est réuni cette semaine, fera connaître son point de vue mercredi. On s'attend à ce qu'il réduise à nouveau de 10 milliards de dollars ses rachats d'actifs mensuels destinés à soutenir l'activité en inondant l'économie de liquidités.
Washington, Camille Grosdidier avec vous. Je vous accompagne pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. En Côte d'Ivoire, la crise qu'a connue le pays a favorisé la création de nombreuses mines d'or clandestines dans les régions centre, nord et ouest du pays. L'exploitation sauvage de ce métal précieux crée un manque à gagner pour l'État et endommage les sols. Notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri, s'est intéressé aux sites de Nafanan et de Kasséré. On l'écoute.
Dans le nord de la Côte d'Ivoire et singulièrement à Nafanan, Villa est située à 5 km du Mali. Environ 5000 orpailleurs venus de la sous-région creusent nuit et jour le sol à l'aide de pioches et de dabas. Leur objectif, trouver de l'or pour améliorer leurs conditions de vie. Alassane Diallo est originaire du Mali.
Souvent, je donne peut-être 2 grammes comme ça, ou 1 gramme, 2 grammes comme ça. Souvent, je vais comme ça sans gagner quelque chose aussi. Un peu qu'on gagne là, on revend en même temps avec les grossistes là. C'est un truc qui paye avec nous.
L'opération est pénible. Il faut aussi avoir de la chance.
Je suis venu du Togo. Nous faisons le travail de l'or seulement. C'est difficile. Il faut qu'on rentre dans ça pour avoir notre manger. Si tu as la chance même, tu peux gagner des kilos. Et puis il y a des gens qui nous gèrent, donner manger. Et quoi si on est arrivé, on partage avec lui.
En midou, du coup. On ne sait pas en quel jour qu'on va trouver, ça dépend de Dieu.
Au côté de ceux qui creusent les trous, il y a plusieurs activités qui gravitent autour de la recherche. Bamba Oumar.
On travaille dans le moulin pour écraser les cailloux. Bon, on écrase, les gens prennent pour laver, pour enlever l'eau là.
Traoré Fantoumata vend diverses marchandises.
Je ne peux pas descendre dans l'eau pour travailler. J'ai problème de eau, donc ce n'est pas facile pour moi. Et on vend du riz ici, un peu de médicaments, puis bon. Cigarettes, oui, on se débrouille pas mal.
Ce métier d'orpailleur ne se fait pas sans risque, connaît Aboulaye.
C'est dangereux. Ça tombe. Même hier, ça a tombé. Il y a un qui est
resté dedans.
À Kasséré, les conditions de travail sont différentes des autres sites d'extraction. Ouattara Karim est le gérant.
C'est une ligne, c'est comme une route. Nous ne constatons pas tous les dégâts par rapport aux terres que tu vas. Bon, on creuse souvent jusqu'à 20, 25 mètres, 30 mètres.
Aucun droit n'est versé à l'État. Les orpailleurs règlent leurs droits avec les propriétaires terriens.
Fin de semaine, on nous demande de payer des billets de 1000 francs. À chaque garage, on les
Devant les dégâts que l'exploitation non contrôlée des métaux précieux occasionne, la présidente de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire a lancé ce cri de détresse. Fatiga Sirakoune.
Si rien n'est fait, c'est l'économie de la Côte d'Ivoire qui est en train de partir. Si nous ne faisons rien aussi pour l'organisation de ce secteur, c'est la Côte d'Ivoire même qui risque aussi de perdre sa place dans le secteur de l'agriculture. L'orpaillage aujourd'hui est en train de prendre le dessus. Nos jeunesses sont en train d'abandonner le chemin des champs au profit de l'orpaillage. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos jeunes filles aujourd'hui font la prostitution sur les sites. Les trousses ont envahi les sites. Nos populations ne peuvent plus boire de l'eau parce que nos eaux sont polluées par l'utilisation du mercure et du cyanure.
Notons qu'environ 100 opérateurs qui ont sollicité l'agrément de l'État en novembre dernier sont toujours en attente. Germaine Dri, Tingrela, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la Voix de l'Amérique.
Ici Washington, Camille Grodilier avec vous pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. La pauvreté n'est pas seulement un manque de moyens financiers. Elle est due à plusieurs facteurs, rappelle l'université Oxford en Grande-Bretagne dans l'édition 2014 de son indice de pauvreté multidimensionnel. Le point avec Morgan Guiriac.
L'université d'Oxford a mis au point depuis plusieurs années un indice de la pauvreté multidimensionnel, une mesure qui retient trois dimensions, santé, éducation et niveau de vie. Il ne s'agit donc plus de classer au même rang tous ceux qui touchent moins de 1,25 $ par jour. Les trois dimensions de l'indice sont elles-mêmes composites. Par exemple, la dimension niveau de vie inclut l'électricité, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la saleté des sols, la saleté des combustibles, les moyens de déplacement, le réfrigérateur et la télévision. L'édition 2014 de l'indice, qui vient d'être publiée, a porté sur 108 pays qui abritent 78% de la population mondiale. Environ 1,6 milliard de leurs habitants sont pauvres à plusieurs regards, et il s'agit en majorité de personnes habitant en milieu rural. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne éprouve plusieurs choses à la fois. On peut ne pas posséder beaucoup d'actifs et on peut souffrir de malnutrition. Et on peut ne pas avoir plus de 5 années de scolarité. Donc, plusieurs choses vont mal à la fois dans leur vie. C'est ce que cela signifie d'être pauvre de façon multidimensionnelle, explique la directrice de l'initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain, le docteur Sabina Alkire. Dans une cinquantaine de pays, l'indice montre que la moitié des pauvres sont tellement démunis de tout qu'ils devraient être classés au rang des indigents. Ils sont quelque 420 millions d'êtres humains, en majorité en Asie du Sud-Ouest, dont 343 millions en Inde. En ce qui concerne l'Afrique, elle compte environ 200 millions d'indigents répartis dans 24 pays. Le Niger étant le pays qui souffre le plus de ce phénomène de pauvreté multidimensionnelle, puisqu'il frappe près de 69% de la population. Malgré tout, ajoute Madame Alkiré, les politiques visant à réduire la pauvreté donnent des résultats. Nous avons étudié l'évolution de 34 pays cette année, qui abritent 2,5 milliards de personnes. Et 30 de ces pays reflétaient une réduction significative de la pauvreté. La très bonne nouvelle, c'est que c'est dans les pays à faible revenu et les pays les moins avancés que la pauvreté diminue le plus rapidement, affirme Madame Alkiré. Selon l'étude réalisée par l'Université d'Oxford, le nombre d'indigents en Éthiopie a été réduit de 30% entre 2000 et 2011. D'autres progrès significatifs ont été notés au Niger, Rwanda, en Tanzanie, au Ghana et en Zambie notamment. Les 8 objectifs du millénaire pour le développement, qui visent notamment à réduire de manière significative la faim et la pauvreté, ont pour date cible l'année 2015. L'espoir de l'Université d'Oxford est que l'indice de la pauvreté multidimensionnelle soit intégré dans les prochains objectifs que se fixeront les Nations Unies pour assurer un minimum à la population de la planète.
Ici Washington, Camille Grosdidier avec vous pour le magazine de l'économie. La FAO signale des progrès dans l'adoption des mesures nécessaires pour juguler la surexploitation des ressources halieutiques de la planète et mieux gérer l'aquaculture. Lors de la dernière session de son comité des pêches, des pays ont adopté des recommandations internationales susceptibles de les rendre plus responsables des activités menées par des navires de pêche battant leur pavillon. Nous revenons sur le problème de la pêche illicite et son impact économique avec M. Lachen Ababouche, directeur de l'économie et des politiques des pêches et de l'aquaculture à la FAO.
Comme c'est une pêche illégale, en principe, on n'a pas de chiffres assez précis. Il y a eu des estimations qui situent le manque à gagner de la pêche illégale pour la communauté internationale entre 15 milliards de dollars et 25 milliards de dollars par an. Ceci étant, en deçà de la pêche illégale, c'est que les personnes qui s'adonnent à cette pêche s'adonnent aussi au blanchiment d'argent. Ça donne à l'exploitation des personnes à bord du bateau à des activités purement criminelles, au-delà du fait qu'ils pêchent de façon illégale et qu'ils pillent des ressources qui ne leur appartiennent pas. Et il y a tout un ensemble d'autres activités criminelles associées avec l'exploitation du personnel à bord, avec le blanchiment d'argent et autres.
Pour les gouvernements, c'est un immense manque à gagner.
Pour les gouvernements, c'est un immense manque à gagner. C'est une action criminelle qui doit être combattue par tous les moyens. Et Interpol, par exemple, classe la pêche illégale et l'associe directement aux autres activités criminelles sur ces bateaux.
Revenons sur les dossiers examinés par le comité des pêches de la FAO.
La 31e session du comité des pêches s'est occupée de ce dossier sur la pêche illégale non régulée et non déclarée, mais s'est occupée aussi d'autres dossiers assez importants, notamment la surexploitation et la surpêche, où on a pratiquement 30% des stocks mondiaux qui sont surpêchés et qui fait que il y a un manque à gagner à cause de cette surpêche d'environ 50 milliards de dollars par an que la communauté internationale perd à cause de la surexploitation et donc de l'inefficience économique des activités de pêche sur les stocks qui sont surpêchés.
Certains pays ont décidé d'adopter des critères internationaux.
Nous avons 3 types d'interventions pour lutter contre la pêche illégale, déclarée et non régulée, ce qu'on appelle communément la pêche INN. Il y a l'accord des états de port de 2009 qui a été négocié entre les pays membres de la FAO et qui a maintenant été endorsé par une dizaine de pays, il a besoin de 25 pays pour être effectif. Pendant la réunion du comité de pêche, la 31e session de la semaine dernière, nous avons eu confirmation qu'environ 12 autres pays ont engagé la procédure d'accession à cet accord. Et on devrait, on l'espère, dans un an et demi, avoir le nombre de pays minima requis pour pouvoir le mettre en œuvre. Le deuxième instrument qui est assez important, c'est celui de ligne directrice volontaire pour la performance des États du pavillon.
Ça, ce sont les pays d'immatriculation des navires de pêche.
Donc les critères de performance et de collaboration internationale des pays du pavillon. En d'autres termes, quand un bateau va pêcher, le pays dont il porte le pavillon a des responsabilités vis-à-vis de la communauté internationale pour empêcher la pêche illégale. Et donc, il y a tout un ensemble de critères qui ont été de nouveau négociés pendant pratiquement 3 ans et qui ont été approuvé par la réunion du comité des pêches de la semaine dernière. Et le troisième instrument, c'est celui d'une base de données de tous les bateaux de pêche avec un numéro, le même numéro unique d'identification de l'Organisation mondiale maritime et qui permettra de savoir qui c'est qui pêche quoi et où. Et avec ces trois instruments, en principe, on devrait être en mesure de lutter plus efficacement contre la pêche illégale non déclarée et non régulée.
Monsieur Lachène Ababouche, directeur de l'économie et des politiques des pêches et de l'aquaculture, il était joint au siège de la FAO à Rome. Et pour finir cette édition du magazine économique hebdomadaire, le football. Quand on parle du ballon d'or de foot, on parle aujourd'hui de beaucoup plus qu'un trophée. Depuis les réformes des années 1980 et 90, le football a enclenché sa mondialisation, même si elle a entraîné des dérives dans les transferts, les salaires, les paradis fiscaux, la corruption. Et certains clubs sont aujourd'hui massivement endettés. Mais en gros, le football captive aujourd'hui des milliards d'êtres humains et un Népalais peut porter le même t-shirt de Barcelone qu'un Australien ou un Kenyan. Le ballon d'or africain a mis les pieds dans l'or, noté de son côté l'économiste Marcelin Alekofi dans sa tribune intitulée « La Drogba économie, comment l'Afrique peut créer des emplois autour de ses stars du football ». Un article publié par Abidjan.net dont il a repris les grandes lignes dans une interview avec Jean-Roger Bion, ici à La Voix de l'Amérique.
Ces stars-là sont aujourd'hui peut-être les meilleurs ambassadeurs que l'Afrique puisse avoir au niveau du monde entier. C'est par elles pratiquement qu'on arrive à mettre un nom sur nos pays ou bien pointer le nom de nos pays sur une carte du monde. Quand vous vivez dans un pays comme les États-Unis, partout où vous partez, une fois sur deux, vous dites Côte d'Ivoire, on ne se retrouve pas. Mais quand vous dites Didier Drogba, le pays de Didier Drogba, tout le monde se retrouve. J'estime donc que dans l'économie mondiale actuelle, ces stars constituent un peu comme des biens autour desquels l'Afrique peut construire des politiques publiques pour tirer le meilleur parti de ces biens. Et l'article met le point essentiellement sur le fait que des industries entières peuvent être bâties autour des grands noms du football que nous avons en Afrique, de Drogba ou Yaya Touré en Côte d'Ivoire, à Eto'o au Cameroun, Mike Olesien au Ghana. C'est des noms qui sont comme de véritables enseignes commerciales aujourd'hui. Et le point que je fais, c'est que si aujourd'hui, la façon dont le nom de Drogba est connu dans le monde, si on arrive à créer une simple chaussure, comme Michael Jordan l'a fait ici aux États-Unis, créer une chaussure de football, de basket, du nom de Drogba, c'est un bien qui bénéficie déjà de la publicité avant même qu'on engage une quelconque action commerciale pour vendre ce produit-là. Et donc j'estime que c'est un potentiel immense qui est dans ces joueurs et qu'il faut exploiter. Michael Jordan, qui est l'exemple que j'ai pris en fait dans l'article, en 2012, la marque de chaussures de basket Air Jordan avait 58% des parts de marché de tout ce qui est chaussures de basket aux États-Unis. Et venait loin devant la marque Nike, qui elle-même s'est associée en fait avec Michael Jordan pour créer la chaussure Nike. Avec Air Jordan, c'est 80 millions de dollars que Michael Jordan reçoit comme revenu par an. Et c'est des millions et des millions de familles qui travaillent autour de la marque Air Jordan dans le monde entier. Donc le point que je fais, c'est que dans une situation aujourd'hui où l'Afrique a plus que jamais besoin de s'industrialiser, si elle veut vraiment asseoir la croissance de façon durable au niveau du continent, il faut qu'une de ces stratégies d'industrialisation soit bâtie autour de nos stars avec lesquelles nous pouvons créer des marques en nous associant à de grands noms dans l'industrie textile et des équipementiers sportifs Nike, Adidas et tous autres qui seraient prêts, si une stratégie est bien définie, de venir construire des usines à Abidjan, à Yaoundé ou à Accra pour fabriquer des chaussures Drogba ou Eto ou Michael Essien.
Alors, pour y arriver, vous parlez d'encadrement de ces stars parce que c'est des personnes qui ne sont pas outillées dans le domaine de l'économie. À qui revient le devoir d'initiative?
L'initiative telle que je la promeus doit venir de nos décideurs publics. Je dis que dans un monde parfait où on aurait de grands hommes d'affaires en Afrique qui viendraient voir Drogba pour lui dire « Tu as un nom qui est une marque, une enseigne commerciale. Est-ce qu'on peut se mettre en affaires pour créer une chaussure en ton nom et vendre ?» Si on était dans un monde comme ça en Afrique, on n'aurait pas besoin peut-être de l'État. Mais nous, malheureusement, nous ne sommes pas encore à ce stade en Afrique. Ici aux États-Unis, la marque Air Jordan, comme je vous l'ai dit, a été le produit d'une association Michael Jordan et Nike. Ils n'ont pas eu besoin du gouvernement américain. Mais nous, aujourd'hui en Afrique, malheureusement, on n'est pas encore à ce stade. Et je dis qu'une telle niche de croissance doit être exploitée par nos décideurs publics dans leur stratégie globale d'attraction de l'investissement étranger en Afrique. Si le gouvernement ivoirien ou le gouvernement camerounais ou le gouvernement ghanéen fait asseoir Didier Drogba ou Eto au Cameroun ou Essien au Ghana, fait asseoir, tu as un potentiel pour notre pays, tu as un nom qui nous rend vraiment heureux déjà au niveau du foot, mais on peut aller plus loin avec ce nom-là. On se met ensemble, on t'encadre, on définit la stratégie, tu as le pion essentiel autour duquel on définit la stratégie, on contacte Nike ou Adidas ou Puma pour dire est-ce que on peut mettre en œuvre un produit Drogba foot ou Drogba, appelez-le comme vous voulez, mais Drogba quelque chose. On fabrique ce produit et l'intérêt dans l'affaire, c'est qu'il ne faudrait pas que Nike choisisse le Bangladesh ou le Vietnam ou autre pour aller fabriquer ses chaussures. Il faut que l'usine de fabrication soit implantée sur les bords de la lagune Ébrier.
On écoutait l'économiste Marcelin Alekofi, conseiller principal de l'administrateur pour l'Afrique au Fonds monétaire international.
Bonjour, c'est Nicolas Pinot. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.